Simon Pierre, Sa vie et ses épîtres, par W.T.P. Wollstone, édition 1950. Chapitre 19. Résistance à Antioche. Acte, chapitre 15. Et quelques-uns, étant descendus de Judée, enseignaient les frères, disant: si vous n'avez pas été circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Une contestation s'étant donc élevée, et une grande dispute entre Paul et Barnabas et eux, ils résolurent que Paul et Barnabas et quelques autres d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour cette question. Eux donc, ayant été accompagnés par l'assemblée, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des nations, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Et étant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'assemblée et les apôtres et les anciens, et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux. Et quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent, disant qu'il faut les circoncire et leur enjoindre de garder la loi de Moïse. Et les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et une grande discussion ayant eu lieu, Pierre se leva et leur dit: « Hommes frères, vous savez vous-même que, dès les jours anciens, Dieu m'a choisi entre vous, afin que par ma bouche les nations ouïssent la parole de l'Évangile et qu'elles crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage, leur ayant donné l'Esprit-Saint comme à nous-mêmes. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière qu'eux aussi. » Et toute la multitude se tut. Et ils écoutaient Barnabas et Paul qui racontaient quels miracles et quels prodiges Dieu avait fait par leurs moyens parmi les nations. Et après qu'ils se furent tus, Jacques répondit disant: « Hommes frères, écoutez-moi. Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: après ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David qui est tombé, et je réédifierai ses ruines et je le relèverai, en sorte que le résidu des hommes recherche le Seigneur, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui fait ces choses, connu de tout temps. C'est pourquoi, moi, je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, et de la fornication, et de ce qui est étouffé, et du sang. Car Moïse, dès les générations anciennes, a, dans chaque ville, ceux qui le prêchent, étant lu dans les synagogues chaque sabbat. Alors il sembla bon aux apôtres et aux anciens avec toute l'assemblée de choisir parmi eux des hommes et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, savoir Judas, appelé Barsabbas, et Silas, hommes d'entre ceux qui tenaient la première place parmi les frères. Et ils écrivirent par leurs mains en ces termes: les apôtres et les anciens et les frères, aux frères d'entre les nations, qui sont à Antioche et en Syrie et en Cilicie, salut. Comme nous avons ouï dire que quelques-uns qui sont sortis d'entre nous vous ont troublés par des discours, bouleversant vos âmes, disant qu'il faut être circoncis et garder la loi, auquel nous n'avons donné aucun ordre, il nous a semblé bon, étant tous d'accord, de choisir parmi nous des hommes et de les envoyer vers vous avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Judas et Silas, qui vous annonceront de bouche les mêmes choses, car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre sur vous aucun autre fardeau que ces choses-ci, qui sont nécessaires, qu'on s'abstienne des choses sacrifiées aux idoles, et du sang, et de ce qui est étouffé, et de la fornication. Si vous vous gardez de ces choses, vous ferez bien. Portez-vous bien. Eux donc, ayant été congédiés, vinrent à Antioche, et ayant assemblé la multitude, ils remirent la lettre. Et l'ayant lue, ils se réjouirent de la consolation. Et Judas et Silas, qui eux aussi étaient prophètes, exhortèrent les frères par plusieurs discours et les fortifièrent. Et après avoir séjourné là quelque temps, ils furent renvoyés en paix par les frères vers ceux qui les avaient envoyés. Et Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres aussi la parole du Seigneur. Et quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons maintenant visiter les frères par toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. » Et Barnabas se proposait de prendre avec eux Jean, aussi appelé Marc. Mais Paul trouvait bon de ne pas prendre avec eux un homme qui les avait abandonnés dès la Pamphylie et qui n'était pas allé à l'œuvre avec eux. Il y eut donc entre eux de l'irritation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et que Barnabas, prenant Marc, fit voile pour Chypre. Mais Paul, ayant fait choix pour lui de Silas, partit après avoir été recommandé à la grâce du Seigneur par les frères. Et il parcourait la Syrie et la Cilicie, fortifiant les assemblées.
Galates chapitre 2.
Ensuite, au bout de 14 ans, je montai de nouveau à Jérusalem, avec Barnabas, prenant aussi Tite avec moi. Or j'y montai selon une révélation, et je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les nations, mais, dans le particulier, à ceux qui étaient considérés, de peur qu'en quelque manière je ne courusse ou n'eusse couru en vain. Cependant, même Tite, qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut pas contraint à être circoncis. Et cela à cause des faux frères furtivement introduits, qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire à la servitude, auquel nous n'avons pas cédé par soumission, non, pas même un moment, afin que la vérité de l'Évangile demeurât avec vous. Or, de ceux qui étaient considérés comme étant quelque chose, quels qu'ils aient pu être, cela ne m'importe en rien. Dieu n'a point égard à l'apparence de l'homme. À moi, certes, ceux qui étaient considérés n'ont rien communiqué de plus. Mais au contraire, ayant vu que l'évangile de l'incirconcision m'a été confié, comme celui de la circoncision l'a été à Pierre, car celui qui a opéré en Pierre pour l'apostolat de la circoncision a opéré en moi aussi envers les nations. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques et Céphas et Jean, qui étaient considérés comme étant des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions vers les nations, et eux, vers la circoncision, voulant seulement que nous nous souvinssions des pauvres, ce qu'aussi je me suis appliqué à faire. Mais quand Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était condamné. Car, avant que quelques-uns fussent venus d'auprès de Jacques, il mangeait avec ceux des nations. Mais quand cela fut revenu, il se retira et se sépara lui-même, craignant ceux de la circoncision. Et les autres Juifs aussi usèrent de dissimulation avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné avec eux par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas devant tous, Si toi qui es juif, tu vis comme les nations, et non pas comme les juifs, comment contraintes-tu les nations à judaïser? Nous qui, de nature, sommes juifs, et non point pécheurs d'entre les nations, sachant néanmoins que l'homme n'est pas justifié sur le principe des œuvres de loi, ni autrement que par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi en Christ, et non pas sur le principe des œuvres de loi. Parce que sur le principe des œuvres de loi, nulle chair ne sera justifiée. Or si, en cherchant à être justifiés en Christ, nous-mêmes aussi nous avons été trouvés pécheurs, Christ donc est ministre de péché, qu'ainsi n'advienne. Car si ces mêmes choses que j'ai renversées, je les réédifie, je me constitue transgresseur moi-même. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, Christ est donc mort pour rien. Quand Pierre se retire pour échapper à la vigilance d'Hérode, Paul se met au travail. Les chapitres 13 et 14 nous rapportent le récit de l'expansion prise par l'Évangile parmi les gentils en Asie mineure, grâce au ministère de Paul et Barnabas. Le lien existant entre ces deux hommes au moment de la première visite de Paul à Jérusalem après sa conversion, chapitre 9, verset 27, se renforça dans la suite. Acte chapitre 9, verset 27.
Barnabas le prit et le mena aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment il avait parlé ouvertement à Damas au nom de Jésus.
Paul s'était rendu à Tarse, sa propre ville, chapitre 9, verset 30.
Et les frères, l'ayant su, le menèrent à Césarée et l'envoyèrent à Tarse.
Peu après, parvint à Jérusalem la nouvelle qu'une œuvre commençait à Antioche, dans la province de Séleucie, par le moyen de
ceux qui avaient été dispersés par la tribulation qui arriva à l'occasion d'Étienne.
Chapitre 11, verset 19. Le Nouveau Testament parle de deux Antioches. Celle dont il s'agit ici est plus importante que l'Antioche de Pisidie, visitée par Paul. Actes chapitre 13 et chapitre 14. Cette Antioche, construite par Séleucus Nicator en 300 avant Jésus-Christ, et qu'il nomma d'après son père, se trouve sur les bords de l'Oronte, à environ 500 kilomètres au nord de Jérusalem, et à 50 de la Méditerranée. Elle était composée de quatre quartiers, chacun ceint par un mur, et tous les quatre entourés d'une muraille commune. Métropole de la Syrie, résidence de leur roi, les Séleucides, elle devint plus tard la capitale des provinces romaines d'Asie, la troisième ville de l'Empire après Rome et Alexandrie. Elle comptait environ 200 000 habitants et offrira toujours un intérêt particulier pour les chrétiens, car
ce fut à Antioche premièrement que les disciples furent nommés chrétiens.
Chapitre 11, verset 26. Quand on apprit à Jérusalem que, dans cette ville importante,
un grand nombre ayant cru se tournèrent vers le Seigneur,
l'assemblée envoya Barnabas pour leur venir en aide dans leur travail,
lequel, y étant arrivé, et ayant vu la grâce de Dieu, se réjouit, et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Et une grande foule fut ajoutée au Seigneur.
Chapitre 11, versets 21 à 24. Barnabas, sentant l'importance de l'œuvre qui s'accomplissait,
s'en alla à Tarse pour chercher Saul, et, L'ayant trouvé, il le mena à Antioche, et il leur arriva que, pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule.
Chapitre 11, versets 25 et 26. Barnabas et Saul furent dès lors compagnons de travail jusqu'aux événements rapportés en Actes 15, avec Antioche comme centre, pendant une période assez longue. Ils partirent de là pour une tournée d'évangélisation, spécialement recommandés aux prières de cette assemblée. Actes chapitre 13.
Et, étant arrivés et ayant réuni l'assemblée, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils séjournèrent assez longtemps avec les disciples.
Chapitre 14, versets 27 et 28. Ce voyage fut la première mission précise parmi les gentils, dans laquelle des assemblées furent formées et des anciens formellement désignés par les apôtres. La parole de Dieu se répandait parmi les nations, les convertissait et les rassemblait au nom du Seigneur Jésus, indépendamment de l'action exercée par les 12 apôtres à Jérusalem, et sans l'obligation de se conformer à la loi de Moïse, qui faisait encore règle parmi les Juifs convertis. À Antioche, on souleva la question de savoir si cet état de choses pouvait encore durer. Elle venait non des Juifs hostiles à l'Évangile, mais de ceux qui, l'ayant accepté, désirait imposer le même joug aux gentils. Le chapitre 15 nous présente le récit détaillé de cet important sujet qui comporte la base même du christianisme.
Et quelques-uns, étant descendus de Judée, enseignaient les frères, disant, « Si vous n'avez pas été circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. »
Verset 1. Ceux qui venaient de Jérusalem avaient l'approbation de l'assemblée et des 12 apôtres, ce qui donnait beaucoup de poids à leur avis. Paul et Barnabas, pleinement conscients de la gravité de leur erreur, eurent avec eux
une contestation et une grande dispute.
Verset 2. Insister sur l'obéissance à la loi de Moïse, c'était annuler l'Évangile, détruire la doctrine de la grâce. Si cette doctrine était vraie, la justification par la foi n'était qu'une illusion. Aussi pouvons-nous comprendre l'hostilité de Paul à l'égard de ses faux frères. Galates 2, verset 4. Mais c'était la volonté de Dieu que cette grave question fût réglée à Jérusalem et non à Antioche. L'assemblée juive de Jérusalem n'aurait pas reconnu la valeur d'une décision prise à Antioche, même si elle concernait toutes les assemblées, l'unité de l'Église aurait encouru du danger. Mais une conférence tenue à Jérusalem tranchait définitivement la question. Elle maintenait intacte l'unité et conservait aux apôtres leur autorité pour proclamer cette vérité. La mention que Paul fait de ce sujet dans l'Épître aux Galates montre toute la gravité de la crise, puisque cela concernait la base même du christianisme. Si quelqu'un était circoncis, il était sous la loi, rejetait la grâce et s'éloignait de Christ. Galates 5, versets 2 à 4.
Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et je proteste de nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce.
Pour Paul, c'était parfaitement clair, mais pas pour ses adversaires.
Ils résolurent que Paul et Barnabas et quelques autres d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour cette question.
Verset 2. D'après ce verset, l'apôtre agit conformément au désir des frères d'Antioche. Mais en Galates 2, verset 2, il donne la véritable raison, la raison intime.
J'y montai selon une révélation,
dit-il. Paul se laissa donc conduire par la volonté de Dieu et ne suivit pas son propre chemin. Plein de foi, d'énergie et de zèle, il fut obligé de se rendre à Jérusalem pour maintenir l'unité. Il prit Tite avec lui, Tite un incirconcis. Il fallait du courage pour amener ce grec, car la vérité était en jeu, et cela trancherait la décision entre lui et les chrétiens juifs. L'apôtre marchait dans la liberté de l'esprit, et il gagna la partie.
Et étant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'assemblée et les apôtres et les anciens. Et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux. Et quelques-uns de la secte des pharisiens, qui avaient cru, s'élevèrent, disant qu'il faut les circoncire et leur enjoindre de garder la loi de Moïse.
Versets 4 et 5.
Les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire.
Verset 6. Une grande discussion s'ensuivit, libre, sans contrainte. Nous retrouvons Pierre, il rappelle ce que Dieu avait fait par son moyen, parmi les gentils.
Homme frère, vous savez vous-même que, dès les jours anciens, Dieu m'a choisi entre vous, afin que par ma bouche les nations ouïssent la parole de l'Évangile et qu'elles crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, leur ayant donné l'Esprit Saint comme à nous-mêmes.
Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière qu'eux aussi. Versets 7 à 11. Il use de toute son influence en faveur de la liberté accordée aux gentils. Il ne dit pas « ils seront sauvés comme nous », mais « nous serons sauvés comme eux ». C'est-à-dire, nous juifs serons sauvés au même prix qu'eux, qui n'ont jamais été sous la loi. Son discours, bien que court, est énergique et acéré, et porte un coup direct au judaïsme.
Et toute la multitude se tut, et ils écoutaient Barnabas et Paul qui racontaient quels miracles et quels prodiges Dieu avait fait par leurs moyens parmi les nations.
Verset 12. Jacques parle ensuite et cite le prophète Amos pour prouver que Dieu s'était choisi un peuple parmi les gentils. Entièrement d'accord avec Pierre, il ajoute «
Je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu. »
Verset 19. Le discours de Jacques produit bon effet, et l'assemblée rend un jugement net.
Alors, il sembla bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'assemblée, de choisir parmi eux des hommes et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, savoir Judas appelé Barsabas et Silas, hommes d'entre ceux qui tenaient la première place parmi les frères.
Verset 22. Ils emportaient une lettre adressée aux frères des nations qui mettait un terme à cette contestation.
Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre sur vous aucun autre fardeau que ces choses-ci qui sont nécessaires, qu'on s'abstienne des choses sacrifiées aux idoles et du sang et de ce qui est étouffé, et de la fornication. Si vous vous gardez de ces choses, vous ferez bien. Portez-vous bien.
Versets 28 et 29. Ces choses rentraient dans les habitudes des gentils. Il importe de remarquer que ce n'étaient pas des choses prohibées par la loi seulement, mais elles étaient contraires à l'ordre de Dieu comme créateur. Les pratiquer n'avait rien à faire avec la loi de Moïse. Mais c'était ignorer la connaissance de Dieu. Le mariage, c'est-à-dire la pureté, était l'institution de Dieu en Éden. Genèse 2, versets 21 à 25.
Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit, et il prit une de ses côtes, et il en ferma la place avec de la chair. et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte.
Après le déluge, quand Dieu autorisa Noé à manger de la viande, il lui défendit de manger le sang, car la vie appartient à Dieu. Genèse 9, versets 3 à 5.
Tout ce qui se meut et qui est vivant vous sera pour nourriture, comme l'herbe verte, je vous donne tout. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Et certes, je redemanderai le sang de vos vies. De la main de tout animal, je le redemanderai. Et de la main de l'homme, de la main de chacun, de son frère, je redemanderai la vie de l'homme.
Tout rapport avec les idoles constituait un outrage à l'autorité du Dieu vivant et vrai. Tout ceci, les gentils l'avaient fait par ignorance et avaient besoin d'être instruits. Les apôtres s'adressaient donc à leur intelligence de chrétiens, tout en s'attachant aux véritables relations de l'homme avec Dieu dans les choses naturelles. Cet arrêt n'est en aucun sens un compromis avec les préjugés juifs ou une nouvelle loi imposée par le christianisme. Ce sont les principes que tout chrétien doit savoir. Premièrement, un seul et vrai Dieu, donc la reconnaissance d'idole de n'importe quelle façon provoque sa jalousie. Deuxièmement, la vie appartient à Dieu. Troisièmement, l'ordre de Dieu, la pureté dans le mariage. Pierre et Paul se trouvaient ainsi entièrement d'accord. Paul dut être réconforté par l'attitude courageuse de Pierre à soutenir cette vérité, que le croyant n'est en aucune manière placé sous la loi. Il éprouva certainement aussi un immense soulagement de ce que les apôtres et l'assemblée de Jérusalem non seulement écrivirent une lettre, mais encore envoyèrent avec eux des hommes importants à Antioche. Ce faisant, ils sanctionnaient dans leur ministère Paul et Barnabas, qui ne pourraient être accusés d'apporter leur seule opinion par ce message. Jérusalem avait décidé que la loi ne devait pas s'exercer sur les gentils, et eux-mêmes purent se réjouir d'être libérés du joug qu'on voulait leur imposer. Judas et Silas restent quelque temps ensemble à Antioche, puis Silas demeure seul sur ce champ de travail, préférant travailler parmi les gentils plutôt que de retourner à Jérusalem.
Et Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres aussi la parole du Seigneur.
Verset 35. Cette phrase semble indiquer que l'assemblée y était devenue très importante, ce qui engagea plusieurs serviteurs de Dieu à y séjourner. Même Pierre s'y rendit peu de temps après la rencontre de Jérusalem. À partir de ce moment, il n'est plus fait mention de lui dans les Actes. La date exacte de sa visite est incertaine. Il s'y comporta de telle façon que Paul fut obligé de lui résister en face, devant tous. Nous en trouvons un bref exposé dans le chapitre 2 de l'Épître aux Galates. Après avoir expliqué ce qui l'amena à Jérusalem, Paul raconte ce que les Actes ne font pas, comment les apôtres le reçurent et l'effet produit par sa visite. Les frères convinrent que Paul avait reçu de Dieu un enseignement indépendant du leur. Son ministère et son apostolat, envoyés par Dieu, le faisaient travailler pour le Seigneur aussi bien qu'eux-mêmes. En outre, il leur communiqua des vérités qu'il avait déjà enseignées aux gentils, mais eux ne purent rien lui apprendre. Paul reconnaît ensuite toute la grâce de Dieu envers Pierre.
Celui qui a opéré en Pierre pour l'apostolat de la circoncision a opéré en moi aussi envers les nations, et ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques et Céphas et Jean, qui étaient considérés comme étant des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions vers les nations, et eux vers la circoncision, voulant seulement que nous nous souvinssions des pauvres.
Versets 8 à 10. Puis vient le récit de la visite de Pierre.
Mais quand Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était condamné. Car, avant que quelques-uns fussent venus d'auprès de Jacques, il mangeait avec ceux des nations. Mais quand cela fut revenu, il se retira et se sépara lui-même, craignant ceux de la circoncision. Et les autres Juifs aussi usèrent de dissimulation avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné avec eux par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas devant tous, « Si toi qui es juif, tu vis comme les nations, et non pas comme les juifs, comment contrains-tu les nations à judaïser ?»
Versets 11 à 14. L'histoire est bien simple. Seul à Antioche, Pierre allait et venait parmi les gentils, mangeait même avec eux. À ce point de vue, il jouissait de la même liberté que Paul. Mais d'autres frères arrivèrent de Jérusalem, centre de la religion de la chair, dont les coutumes subsistaient parmi les chrétiens. Pierre, particulièrement bien connu, se rendit compte que ses amis pourraient le désapprouver, eux qui, quoique chrétiens, restaient juifs dans leurs pensées et leurs habitudes. Il craignit donc d'user de cette liberté et, par peur de leur opinion, il se retira et se sépara des gentils. Les frères juifs, à leur arrivée, soutinrent probablement plus d'une discussion avec Pierre pour lui représenter l'effet produit à Jérusalem par sa conduite. Ils avaient dû alléguer la perte d'estime et de confiance en lui comme chef des croyants et le risque de dissensions entre eux. L'apôtre écouta ces récriminations, aveugle quant au résultat de cette marche rétrograde et influencé par
la crainte des hommes qui tend un piège.
Proverbe 29, verset 25. Nous avons toujours vu Pierre fervent, énergique et bouillant, mais trop attaché à l'opinion qu'on avait de lui, sentiment qui agira toujours sur nos cœurs si celui de la présence de Dieu ne nous en libère pas. Nous nous sentons faibles en proportion de l'importance que nous croyons avoir devant les hommes. Si nous ne sommes rien à leurs yeux et aux nôtres, nous agissons indépendamment d'eux. C'est là que manqua Pierre. Son action influença les autres Juifs. Barnabas, le dernier dont on aurait pu le croire,
fut entraîné avec eux par leur dissimulation.
Dans la mesure où l'opinion des autres croît d'importance sur nous, notre influence sur eux sera mauvaise, si nous désirons maintenir notre réputation selon leurs désirs, et contrairement à ce que nous savons être la vérité. Mais pourquoi la conduite de Pierre et celle des autres Juifs est-elle qualifiée de dissimulation? Pierre n'avait pas changé de conviction. Il les avait courageusement exprimés en acte 15. Ici, pour plaire aux autres, il avait modifié sa conduite. Il ne voyait pas que refuser de manger avec les gentils constituait en somme le refus de les considérer comme des frères en Christ. Il revenait à son ancien point de vue du pur et de l'impur que la vision d'acte 10 devait avoir écarté, en contradiction avec ses propres paroles à la rencontre de Jérusalem et en violation des principes de la lettre qu'il aida à écrire à cette occasion. Sa conduite rappelle, dans une certaine mesure, celle qu'il eut dans la cour du souverain sacrificateur, le même courage impulsif, suivi d'une timidité tremblante à l'heure de l'épreuve. Nous ne savons pas si, comme autrefois, il pleura amèrement. Mais le connaissant comme nous le connaissons, nous sommes portés à le croire. Paul seul semble avoir été ferme dans cette crise. Pierre, malgré sa supériorité évidente, ne lui en imposait pas tant qu'il fut obligé de se taire quand la vérité de Dieu était en jeu. Il lui résista en face parce qu'il était condamné. Paul, qui avait été converti par la révélation de la gloire divine et qui était rempli de l'Esprit-Saint, sentait que tout ce qui exaltait la chair obscurcissait cette gloire. Moralement, il vivait dans le ciel et dans la compagnie de Christ. Il avait un œil d'aigle pour découvrir tout ce qui pouvait ternir la gloire du Seigneur. Il vit que la conduite de Pierre était charnelle et non spirituelle. Lui-même occupé de Christ, il est hardi comme un lion pour défendre la vérité, et il n'épargne personne, pas même ceux qui occupaient une position élevée dans l'assemblée. Il ne se laisse pas arrêter par l'homme, et sa conduite en cela contraste avec celle de Pierre.
Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers de celui qui hait sont fréquents.
Proverbe 27, verset 6. Judas avait fourni la preuve de la seconde partie de ce verset. Paul illustre la première dans sa manière d'agir avec Pierre. Il va franchement à lui, démontre en quoi il est coupable. Il savait que Pierre avait les mêmes convictions que lui, mais qu'il les avait trahies à la suite de la pression exercée par son entourage. Il était persuadé que Pierre aimait le Seigneur, les gentils et lui-même. Cela explique la fidélité et la franchise avec laquelle il attaque.
Si toi qui es juif, tu vis comme les nations, et non pas comme les juifs, comment contrains-tu les nations à judaïser? Nous qui, de nature, sommes juifs et non point pécheurs d'entre les nations, sachant néanmoins que l'homme n'est pas justifié sur le principe des œuvres de loi, ni autrement que par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi en Christ, et non pas sur le principe des œuvres de loi. Parce que sur le principe des œuvres de loi, nulle chair ne sera justifiée. Or, si, en cherchant à être justifiés en Christ, nous-mêmes aussi nous avons été trouvés pécheurs, Christ donc est ministre de péché, qu'ainsi n'advienne. Car si ces mêmes choses que j'ai renversées, je les réédifie, je me constitue transgresseur moi-même. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce de Dieu. Car si la justice est par la loi, Christ est donc mort pour rien.
Versets 14 à 21. Lui, un juif, se sentait libre de vivre comme les gentils. Pourquoi obliger les gentils à vivre comme les juifs, soi-disant pour jouir de la communion entre chrétiens? S'il se sentait la liberté de négliger la loi de Moïse peu de temps auparavant, il serait absurde d'exiger des gentils de se conformer à ses exigences. Cela affecte le fondement même de l'Évangile. Car eux-mêmes, juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations, ils ont complètement abandonné les œuvres de la loi et sont venus à Christ pour leur salut et leur justification. Mais si, en le faisant, ils ont été trouvés pécheurs parce qu'ils ont négligé la loi comme moyen de salut, alors Christ les aurait incités à pécher et ils auraient fait un faux pas. S'il faut reconstruire l'édifice de la loi pour obtenir la justice, pourquoi s'en être détourné? Si Pierre avait tort de manger avec les gentils, il le faisait selon le commandement reçu du Seigneur dans la vision de Actes 10. Christ alors l'avait enseigné à tort. Si, au contraire, il avait raison, il avait tort en cessant de le faire et devenait un transgresseur. Quel pénible résultat de la faiblesse et de l'effort tenté pour plaire aux hommes! Combien peu les chrétiens mesurent l'importance de cette scène entre les deux apôtres. Une quantité de gens s'arrêtent aux ordonnances. S'appuyer sur les ordonnances, c'est s'appuyer sur la chair. Christ est tout pour l'âme croyante. Les ordonnances, le baptême, la scène, viennent à leur place. Il les a prescrites, non comme des moyens pour la grâce de s'appuyer sur elles, mais pour distinguer ses enfants du monde. D'un côté, pour être morts avec lui par le baptême, de l'autre, la scène, pour être unis à lui dans l'unité du corps sur le terrain de la rédemption. Paul ressentait tout ceci très vivement. C'est ce qui lui fait dire « Moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. » Il avait appris que la chair n'est bonne à rien et que la loi ne peut lui venir en aide. Dieu a condamné le péché dans la chair. Sa place est dans la mort et elle ne peut pas être améliorée. Être sous la loi, c'est en réalité se condamner soi-même à la mort. S'il est mort, il est mort à la loi dont le pouvoir ne va pas au-delà de la vie. Si la victime est morte, la loi n'a aucun pouvoir sur elle. Mais alors, où trouver la vie? Seulement en Christ ressuscité. Paul a été crucifié avec Christ, si bien que la condamnation de la loi a été annulée pour lui à la croix. La loi l'avait atteint dans la personne du Fils de Dieu, qu'il aimait, et s'est donnée pour lui. La vie du péché, dominée par la loi, s'est terminée à la croix. Néanmoins, Paul vit, pas lui pourtant, c'est Christ qui vit en lui. Il est devenu une nouvelle créature. Christ est son but.
Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
C'est la vie personnelle, la foi individuelle qui s'attache à Christ et fait de lui l'objet précieux de la foi et des affections. Mais si, selon les principes juifs, la justice est en rapport avec la loi, alors Christ est mort pour rien, car notre justice consisterait à garder la loi. Ainsi nous perdrions Christ, son amour, sa grâce et la justice de Dieu qui est par la foi. Nous ne savons pas comment Pierre reçut l'admonestation de Paul. S'il n'a pas reconnu ses torts et n'a pas cherché à les réparer, il ne serait pas le Pierre que nous avons suivi avec tant d'intérêt jusqu'à maintenant. Il ne garda certainement pas rancune à Paul, car, plus tard, il parlera de notre bien-aimé frère Paul. 2 Pierre 3, verset 15.
Estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.
Le Seigneur a beaucoup à nous enseigner par cette scène. De l'attitude de Paul, apprenons à tenir bon pour la vérité à n'importe quel prix. Même si nous devons résister à un frère, faisons-le en face et non derrière son dos. Souvent, celui qui est jugé coupable ou fautif est le dernier à l'apprendre. Quand nous avons quelque chose à dire à un frère, allons directement à lui. Si cette règle était observée, combien de chagrins seraient épargnés à l'Église de Dieu?
Le rapporteur divise les intimes amis.
Proverbe 16, verset 28. Les rapporteurs reçoivent trop facilement des encouragements. De la conduite de Pierre, apprenons qu'une chute, même suivie d'une complète restauration, en grâce, ne peut guérir une disposition naturelle. L'anneau faible de sa chaîne existait encore, sinon il n'aurait pas été arrêté momentanément. Si lui, un apôtre, pouvait agir ainsi après toutes les expériences vécues, combien plus chacun de nous peut-il crier à Dieu
« Soutiens-moi, et je serai sauvé. »
Psaume 119, verset 117.